les débats de Radio Accor. Animé par Michel Guinet.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième débat de l'année 2012-2013 sur le thème « Agriculture française, quels défis, quelles solutions pour demain ?» Tous les débats de cette série sur l'agriculture, sujet évidemment essentiel dans ce grand pays agricole qu'est la France, peuvent être écoutés à 18h15, en principe le deuxième mardi de chaque mois, sauf exception, et sont disponibles en podcast pendant un mois après diffusion. Le débat de ce jour est intitulé « Vers un retour des arbres dans les cultures ». Haies, agroforesterie, pourquoi ? Les haies, chacun de nous les connaît ou les a connues, plantées dès l'Antiquité, en Europe et en France, pour se protéger des autres et du vent. Les haies ont façonné le paysage rural jusqu'au XIXe siècle. Depuis, ce patrimoine naturel est en constante régression, la raison essentielle étant de limiter le morcellement en petites parcelles de la surface agricole pour utiliser plus efficacement des outils mécaniques de plus en plus grands et de plus en plus puissants. Comme nous allons le voir avec nos invités, cette destruction des haies a plusieurs conséquences négatives, et pas seulement sur les paysages. Doit-on, peut-on remettre des haies ? Ou plutôt, essayer de bénéficier à la fois des avantages de l'association des arbres aux cultures et d'espaces suffisamment vastes pour l'utilisation des outils mécaniques modernes. Ce que veut faire l'agroforesterie. On va vous définir ce mot d'ici quelques instants. Pour discuter de tous ces points, trois experts, je les donne dans l'ordre alphabétique, Patrick Bouchny, responsable du service production végétale à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Gilles Courreau, un des premiers agroforestiers de la Vienne, il habite à Bétine, Samuel Fichet, technicien à l'association PROM-Haies, à la Maison de la Forêt et du Bois à Montalembert, dans les Deux-Sèvres. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons commencer par une présentation un peu plus détaillée de vous-même et de vos activités. Alors c'est vous qui allez vous présenter, donc dans l'ordre que vous souhaitez. Alors peut-être Patrick Bouchny.
Eh bien donc bonjour au public. Je suis Patrick Bouchny, j'ai une formation d'agronome et je suis responsable du pôle production végétale à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, comme ça a été signalé. Et sans rentrer trop dans le détail, je voudrais aussi signaler que parmi mes missions, je suis, en dehors de manager une équipe, je suis particulièrement investi dans le domaine de l'agroforesterie.
Qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie, pour simplifier, on dira que c'est l'idée de planter des rangées d'arbres dans des parcelles agricoles, à un certain écartement suffisamment important pour que les cultures puissent continuer à être réalisées dans les interrangs. Donc on parlera de façon plus détaillée ensuite des différentes actions qui sont menées sur ce domaine, mais il s'agit bien de planter des arbres en alignement dans les parcelles cultivées.
Donc associer arbres et cultures sans nuire au traitement mécanique.
Alors, effectivement, en gérant le problème de la mécanisation. Alors, quand on dit culture, ça peut être également prairie. Hein, on parle d'agro-silvopastoralisme. Ça peut être également des cultures pérennes, puisque en agroforesterie, je ne vais pas non plus détailler, mais on commence à avoir des plantations même qui se font avec les vignes.
Bien. Un agroforestier maintenant, donc Gilles Courreau.
Bien. Bon, moi, je me présente. Je suis agroforestier depuis 7 ans maintenant. Et au terme d'une carrière de 30 ans environ en Afrique et en Haïti, dans laquelle j'ai découvert l'agroforesterie parce que c'est une véritable nécessité pour lutter contre l'érosion dans les pays surtout fortement accidentés comme le Rwanda. Et donc, la technique de l'agroforesterie a beaucoup mieux pris en Afrique où naturellement les arbres sont au milieu du culture qu'en Europe. En Europe, même, à la veille de prendre ma retraite, j'avais un voisin, un vieil agriculteur, qui m'avait expliqué qu'il payait son fermage rien qu'avec les noix. Donc, ça, j'ai toujours gardé cette petite phrase, et le jour où j'ai décidé de me lancer dans un projet, eh bien, j'ai opté pour le noyer, qui était l'arbre indigène par excellence, Et donc, c'est la base du projet, en deux mots, voilà.
Merci, nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, Samuel Fichet.
Donc, Samuel Fichet, je suis technicien forestier d'origine à l'association Promet. Donc, l'association Promet, c'est une association régionale qui s'occupe de tout ce qui va concerner les arbres et les haies dans l'espace champêtre, c'est-à-dire...
Avec beaucoup d'adhérents.
Alors, c'est une association qui regroupe environ, selon les années, 200 à 300 adhérents, à peu près.
Sur Poitou-Charentes.
Sur la région Poitou-Charentes, hein, sachant qu'on travaille essentiellement sur les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente. Donc, l'objectif de cette association, c'est de faire du conseil technique à la plantation de haies, d'arbres, à l'entretien, la valorisation de tous ces arbres et à leur maintien, faire la promotion de l'intérêt de conserver les haies, les arbres, de mettre en place des projets agroforestiers dans les espaces agricoles, champêtres, ruraux.
Merci. Quelques généralités maintenant sur les haies et sur l'agroforesterie, avec quelques exemples. Alors, Samuel Fichet, vous parliez des haies, vous allez continuer. Il y a divers types de haies, et peut-être que vous, ce serait bien que vous fassiez un historique. Où en est-on au niveau des haies? Continue-t-on à les détruire, ou est-ce que l'on construit? Au contraire, on remet de nouvelles haies?
Alors, les haies, les haies sont une construction, on va dire, humaine, hein, comme le bocage. C'est un aménagement du territoire qui a eu lieu il y a plusieurs siècles. Dès l'Antiquité, mais qui s'est surtout mis en place, on va dire, un peu au Moyen-Âge et surtout après la Révolution française, hein, au moment de la redistribution des terres. Et donc, l'objectif de ces haies, au départ, était multiple déjà, c'est-à-dire de clôturer les parcelles. Soit pour empêcher, on va dire, le bétail de rentrer dans les parcelles de culture, ce qui était important. Parfois empêcher le bétail également de sortir des prairies, hein, un rôle de contention. Et surtout dans nos régions de l'ouest de la France, de produire du bois. Parce qu'on est dans des régions finalement très peu boisées. Et le bois était utilisé un peu partout à ce moment-là. Et notamment le bois de chauffage, le bois d'œuvre, le bois de fagot pour les fours à pain, etc. Et donc ça, c'était un rôle très très important de la haie.
J'ai lu qu'au Moyen-Âge, c'était l'essentiel du bois qui revenait aux paysans. C'est-à-dire que les seigneurs, eux, se gardaient les forêts et finalement les paysans devaient se contenter du bois des haies.
Oui, tout à fait. Il y a eu ces règlements-là, puis plus proche de nous, entre les fermiers et les propriétaires. C'est-à-dire que les fermiers avaient et ont toujours le droit au bois de chauffage, au petit bois, et les propriétaires conservant les arbres dits de futaie de production de bois d'œuvre. En règle générale. Donc aujourd'hui, la haie, elle a subi énormément de changements parce que l'agriculture a beaucoup évolué depuis ces 50 dernières années. Donc les petites parcelles qui étaient effectivement gênantes par rapport à la mécanisation ont dû être agrandies.
Remembrement donc.
Ce qui dit remembrement, nombreux arrachages avec effectivement...
Mais arrachages légaux, on pouvait arracher les haies comme on voulait.
On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Il y a quelques cas de restrictions d'arrachage dans quelques règlements dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, ou suite à des remembrements où des haies peuvent être protégées. Mais globalement, aujourd'hui, la haie n'a pas de statut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue au niveau du cadastre, par exemple. Donc, on ne sait pas qu'il existe une haie sur une parcelle agricole. Donc, elle ne peut pas être protégée aujourd'hui. Sauf si elle est vraiment identifiée dans un document particulier.
Donc, les paysages ne peuvent pas être protégés.
Comme je vous disais, il y a différents outils, c'est assez complexe, mais on ne peut pas dire qu'il y a un outil global efficace aujourd'hui à l'échelle du territoire. Après, on n'est pas non plus, nous, pour figer les paysages, hein, qui ont toujours évolué, et on sait que l'agriculture a eu besoin d'évoluer, donc d'agrandir ses parcelles, de se mécaniser. Seulement, on constate également des abus, hein, c'est-à-dire que certaines haies qui pourraient rester, notamment bord de voirie, sont parfois systématiquement détruites. Et donc ça peut avoir des conséquences assez graves sur l'environnement.
Et sur le paysage.
Et sur le paysage.
Sur la beauté du paysage.
Oui, tout à fait. Donc je ne sais pas si je développe sur ces questions-là.
Nous entrerons dans le détail par la suite. Qui veut dire un mot sur les haies avant de passer à l'agroforesterie?
Je peux dire un mot sur les haies. C'est que moi, en tant qu'agroforestier, les haies... Nous avons conservé les haies parce que il s'agissait d'une petite exploitation d'une vingtaine d'hectares et dont les formes, la forme des parcelles ne permettait pas de faire de la culture à caractère industriel. Et donc, on a conservé toutes les haies. Et donc, les haies protègent quand même beaucoup les arbres que vous mettez en place et assurent mieux leur rectitude.
Un mot sur les haies ?
Pas forcément pour les haies, mais simplement pour préciser par rapport à ce que disait aussi Samuel, au niveau chambre d'agriculture, j'ai oublié de préciser que ce sont des, simplement pour le public, ce sont des établissements publics qui sont dirigés par des élus et qui ont donc comme mission d'être les interlocuteurs des pouvoirs publics.
Il y a des élections en cours d'ailleurs, je crois.
Voilà, c'est au mois de janvier, très prochainement. Et donc simplement pour résumer aussi, ils remplissent des missions de développement agricole et forestier, puisqu'il y a aussi des forestiers dans les chambres d'agriculture. Moi, je suis agronome, mais certains sont forestiers. Et ils ont des activités dans de nombreux domaines. Je parlais de production végétale, mais également aussi aménagement du territoire, gestion, agritourisme. Et simplement pour rappeler qu'au niveau d'historique, on l'abordera après, le sujet qui concerne cette émission, les chambres d'agriculture ont décidé à partir des années pratiquement 2000, puisque c'est très récent, d'accompagner les agriculteurs dans le développement de l'agroforesterie. Il y a une quinzaine de régions qui sont concernées et les chambres d'agriculture du Poitou-Charentes font partie de ces régions qui s'impliquent dans l'agroforesterie.
Est-ce que les chambres d'agriculture sont également intéressées à la préservation des haies, au moins de celles qui bordent les chemins communaux ?
Oui, alors il y a des domaines aussi qui sont en matière de forestier, qui concernent la partie boisement autour des parcelles, donc les haies, les embellissements je parlais d'agrotourisme, mais aussi tout ce qui est embellissement de fermes. Donc il y a les plantations, de façon générale, sont aussi accompagnées sur certains projets en termes d'aménagement du territoire.
C'est peut-être assez pour les généralités. Nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler plus en détail des haies. Donc, Samuel Fichet, des haies, pourquoi, comment, plus en détail. Quel est l'intérêt d'avoir une haie et quels sont les inconvénients qui, éventuellement, peuvent être liés ? On en a déjà vu un. Alors, y en a-t-il d'autres ?
Oui, donc les haies, aujourd'hui, on va dire dans nos problématiques modernes, ont plusieurs intérêts, ont des inconvénients également, il ne faut pas le nier. Donc, en termes d'intérêts, ils vont avoir des intérêts productifs au niveau agricole, hein, des intérêts agronomiques qui sont parfois un peu
même
niés.
Même si le terrain cultivé est limité.
Oui, alors un des premiers intérêts sur lequel nous on essaye de communiquer, et qui est un message qui est assez mal passé dans le monde agricole, c'est l'intérêt brise-vent dont parlait un peu M. Courreau, qu'il a constaté notamment par rapport à la croissance des arbres. C'est vrai que les haies, en freinant le vent, protège les végétaux et les animaux qui vont se trouver derrière. Et toutes les études qui ont été menées aussi bien par l'INRA il y a de nombreuses années que par les Américains plus récemment prouvent qu'il y a des augmentations de rendement aussi bien chez le bétail que sur les cultures céréalières, mais également sur les arbres forestiers qui peuvent se trouver derrière la haie, parce que ce vent, quand il est freiné, limite l'évapotranspiration, protège les animaux, etc. Et donc il y a plus d'énergie disponible à la production.
On dit également que la température évolue moins au voisinage des haies.
Voilà, alors après, il y a un effet microclimatique qui est parfois plus difficile à appréhender. Il peut être de temps en temps positif, de temps en temps négatif. On voit parfois des colzas au pied de la haie qui ne poussent pas, parce que là, il peut y avoir également des effets un peu négatifs de ce microclimat. Donc, c'est pas une solution miracle, mais globalement, on considère que l'espace et la production perdue par l'emprise de la haie et près de la haie est gagné par l'effet brise-vent qui se trouve à l'intérieur de la parcelle, en fait, hein. Il est compensé. Donc très visuellement, on voit la perte près de la haie, donc ce qui fait dire aux agriculteurs que la haie a un impact négatif. Et l'effet positif à l'intérieur de la parcelle est beaucoup plus diffus et allongé, et donc cet effet-là, on le voit peu. Mais il serait équivalent, voire plus important que la perte occasionnée près de la haie. Donc ça, c'est pour un des intérêts agronomiques. Après, on peut évoquer d'autres intérêts.
Il faut évoquer la...
Gilles Goron.
Pardon. La pollinisation des céréales. Je crois que dans les grandes parcelles, aux États-Unis notamment, on a été amené à implanter soit des haies, soit des ruchers au milieu des parcelles, je ne sais pas, peut-être...
De manière à favoriser le développement des abeilles.
Et oui, pour polliniser...
Oui, tout à fait. On sait que on a un certain nombre de problèmes avec les abeilles, hein, notamment, et que ces haies sont un lieu de vie, d'abri pour tous les insectes pollinisateurs en général. Et il y a un élément qui est très important dans ces milieux-là, c'est par exemple le lierre, qui est quelque chose d'assez mal aimé. On considère ça comme de la vermine, souvent sur les arbres et les haies. Or, c'est une espèce extrêmement importante pour les pollinisateurs et pour les abeilles, parce qu'elle a une floraison décalée. Et la floraison du lierre a lieu au mois d'octobre-novembre, c'est-à-dire juste avant l'hiver, lorsque ces insectes-là ne trouvent quasiment aucune autre ressource dans la nature. Donc en conservant le lierre, à cette période-là, on permet à ces populations de pollinisateurs effectivement, de passer beaucoup plus facilement l'hiver que si on a des paysages totalement dénudés où aucun lierre peut monter sur aucun arbre, finalement.
Donc la constitution de la haine est importante.
Tout à fait, tout à fait. Il faut éviter d'avoir des paysages, on va dire, trop propres, entre guillemets. On nous parle souvent, quand on est sur le terrain, nous, de vermine, quand on évoque le lierre, quand on évoque la ronce, ces choses comme ça. Il faut savoir que tous ces milieux-là, qui nous paraissent aujourd'hui sales, sont des milieux de vie extraordinaires pour la biodiversité. Et cette biodiversité, elle peut être utile à l'agriculture, et ça c'est important je pense de le répéter et de changer un petit peu la vision qu'on peut avoir de la nature, aussi bien de la part des agriculteurs que de la part de l'ensemble de la population par rapport à ces milieux un petit peu ensauvagés, entre guillemets.
On parle aussi de régulation des populations de ravageurs.
Oui, là, peut-être que Patrick peut en parler parce qu'il a travaillé je pense sur ce sujet-là au niveau de l'agroforesterie.
Oui, dans une des actions qui ont été menées dans l'agroforesterie, mais on va peut-être continuer sur la haie. Je reviendrai dans l'historique et sur le programme qui a été mené en matière d'accompagnement des services écosystémiques, on appelle ça. Bon, c'est un mot barbare pour dire que, enfin barbare en tout cas scientifique, pour signaler qu'il y a exactement depuis une dizaine d'années, comme je le rappelais tout à l'heure, des actions qui sont maintenant menées sur des parcelles de référence pour essayer de suivre l'intérêt, en particulier au niveau des auxiliaires de culture, la lutte biologique, et j'y reviendrai. Mais il faut peut-être terminer sur la haie. Si
on... Oui, bah donc sur la haie, c'est un peu le même intérêt que sur l'agroforesterie. On va avoir des insectes, ou pas que des insectes, hein, des auxiliaires des cultures, c'est-à-dire des animaux qui vont attaquer les ravageurs des cultures, comme les pucerons par exemple, hein, qui sont des ravageurs bien connus, ou les mulots. Et à partir de la haie, on va avoir un certain nombre de prédateurs qui, s'ils sont bien installés en...
Des oiseaux, notamment.
Alors des oiseaux, ça peut être tous les rapaces et tous les petits mammifères. Il y a des régions comme l'Auvergne où ils replantent beaucoup d'arbres pour lutter contre les pullulations de rongeurs, de mulots notamment. Hein. On a l'exemple des coccinelles qui est très connu par rapport aux pucerons, qui est très utilisé là plutôt sur les vergers de production fruitière. Mais c'est des choses qui commencent à se développer également en culture céréalière, bien que ce soit un peu plus complexe à appréhender quand même aujourd'hui.
On dit aussi que les haies sont des pièges à carbone. Est-ce que vous pouvez disserter un peu là-dessus ? Personne, non ?
Oui.
C'est annoncé, c'est-à-dire que finalement...
C'est pas compliqué à comprendre, hein. C'est-à-dire qu'un arbre en croissance, c'est tout simplement un arbre qui stocke du carbone. Le bois, c'est du carbone stocké.
Qui assimile du CO2.
Voilà, il assimile du CO2, il le transforme en matière carbonée qui forme le bois. Grâce au soleil, à la photosynthèse, c'est une usine solaire qui va stocker du carbone à la fois dans le tronc, mais surtout dans le sol. Et ça, c'est très important également à dire. C'est-à-dire que dans le sol, au pied de la haie, on va stocker, ou au pied de la forêt, ou dans une prairie, on va stocker autant de carbone, finalement, que dans le bois qui est au-dessus. Donc ces techniques aujourd'hui qui consistent à replanter des arbres ou à ne pas travailler les sols agricoles sont des techniques extrêmement favorables au stockage de carbone et donc à la limitation du changement climatique.
Est-ce que ces haies ont aussi un intérêt comme pour l'utilisation du bois ? Est-ce que ça vaut la peine, pas, comme énergie ? Est-ce qu'il y a suffisamment de bois de fourni pour que...
Oui. Aujourd'hui, on va dire que tout ce qui concerne le bois énergie reprend une ampleur très très importante dans les haies depuis 5-6 ans, avec le pétrole rare et cher, l'électricité, le gaz également qui augmentent. Énormément de gens retournent à la haie, refont du bois bûche. Il y a un intérêt économique qui devient de plus en plus flagrant. Hein. On voit des haies et des arbres têtards se refaire exploiter alors que c'était un petit peu laissé à l'abandon. Et on a vraiment des gens même qui aujourd'hui replantent des haies pour produire du bois énergie, soit pour le vendre éventuellement, le déchiqueter pour des chaudières à bois déchiqueté, ou l'utiliser en bois bûche, la demande étant de plus en plus importante. Hein.
Vous utilisiez le bois de vos haies, Gilles Courant ?
Oui, c'est venu postérieurement à une installation au fioul. Et les deux étant combinés, on n'a pas à se relever la nuit pour remettre du bois. Mais... Donc, on est satisfait.
Bien, un autre intérêt que tous les mangeurs de confiture connaissent, c'est que finalement, on trouve des petits fruits, notamment des mûres, dans les haies. Et c'est très important.
Oui, après, il y a tout l'intérêt social de la haie, c'est-à-dire l'intérêt paysager, la beauté du paysage, les promeneurs, le tourisme vert, le fait d'aller ramasser des petits fruits, des confitures, d'observer des oiseaux, de ramasser des champignons, voilà, j'en passe des meilleurs.
Ça favorise les champignons aussi.
Oui, bah, y a des morilles hein, au pied des haies, par exemple. Les arbres favorisent énormément la faune fongique, etc. Donc c'est tout ça, on préfère se promener dans un paysage plutôt bocager qu'au milieu d'une grande plaine céréalière, effectivement, où on n'a plus un arbre. Là, effectivement, l'intérêt pour la population, il est évident d'avoir des arbres et des haies dans la campagne.
Sans compter la chasse.
Et j'oubliais la chasse, effectivement.
J'allais y venir. Les associations de chasseurs replantent des haies. C'est bien cela.
Oui, moi, je ne suis pas chasseur.
Vous n'êtes pas chasseur.
Alors, oui, nous, au niveau de l'association Promet,
on va travailler avec les associations de chasseurs.
On peut être amené à travailler avec des associations de chasse, mais il y a des fédérations qui ont leur propre programme de plantation. C'est-à-dire que nous, on participe à peu près à la plantation de 30 km de haies sur le Poitou-Charentes par an. Et on sait que, globalement, si on additionne avec les autres structures, dont les fédérations de chasse qui plantent, on est peut-être à 60-70 km de haies plantées par an en Poitou-Charentes.
Ce qui n'est pas beaucoup, hein.
Ce qui est finalement, paraît important comme ça, mais à notre avis, en tout cas, on a peu de statistiques là-dessus, ne compense pas les arrachages qui continuent malheureusement dans un certain nombre de régions.
Certainement pas. Je n'ai pas de statistiques sur les arrachages actuels, mais de 75 à 87 en France, il y aurait eu 45 000 km de haies qui ont été éliminées, ce qui est vraiment... Une très grande quantité de haies.
Ouais, je pense qu'il y a un effort important également là à faire.
Un effort pédagogique.
Pédagogique. Et puis en termes de replantation, on a aujourd'hui des exploitants agricoles qui peuvent, en ayant pris conscience de tous ces intérêts multifonctionnels là, qu'on évoquait avant, planter plusieurs kilomètres de haies sur leur exploitation. Et on a des projets avec certains de 2, 3, 4 kilomètres cet hiver notamment.
Oui, l'arrachage des haies, en général, se fait pas exclusivement. L'agriculteur, en général, comble les mares et les fossés du même coup. Et c'est là qu'on voit les dégâts au moment des grandes pluies. Et tout le monde peut observer que le régime des pluies en ce moment en Poitou-Charentes, il évolue vers un type méditerranéen. Et à mon sens, on va payer lourdement la facture. Des mares comblées, des fossés comblés et des haies arrachées. Et les communes ne sont pas exemptes du reproche, hein, parce qu'elles bouchent allègrement certains fossés.
Bien, c'est un appel à plus de réflexion dans la gestion du territoire. Vous vouliez dire quelques mots ?
Non, je reprendrai sur la partie agroforesterie, si vous voulez, en disant qu'on trouve les éléments qui ont été cités pour la haie. Et comme on va aborder l'agroforesterie, je pense, par la suite, simplement signaler que, en fait, l'agroforesterie, l'association des arbres et des cultures, ou des prairies, densifie les effets au niveau d'une parcelle par rapport à la haie qui est extérieure, enfin, sur les bordures de parcelles. Donc, c'est cet aspect un peu...
Oui, l'effet de la haie est beaucoup plus localisé.
L'effet associatif est un élément qu'on étudie plus particulièrement par rapport à ce qu'on a pu observer déjà au niveau des haies. Et c'est sur ce point-là qu'il faudra peut-être développer la deuxième partie.
Y a-t-il une législation sur les haies ? Pas seulement sur la destruction, mais aussi sur la replantation des haies.
Alors, concernant la plantation et les aménagements, donc il y a des aides possibles par territoire. Donc là, il faudrait... Je pense consulter.
On a un site sur la région.
On a un site internet, oui. Alors, la région, il y a des aides à la fois du conseil régional, plutôt pour les collectivités, par endroit des aides des conseils généraux, et par endroit également des aides des pays eux-mêmes. Et on peut, nous, également avoir une aide privée. On a une association.
Un pays, c'est une association de communes, c'est ça ?
Oui, un pays, c'est une association.
Pays bouglésien, etc.
Voilà,
etc.
Pays mélois, etc. Pays ruffécois. Et donc, il faut interroger les collectivités locales qui mettent éventuellement des programmes d'aide ou aller voir, on a un site internet où l'ensemble des aides sur le Poitou-Charentes est défini.
Est-ce que vous pouvez donner l'adresse
donc de l'adresse ce site internet ? L'adresse du site internet, c'est www.promhaies, en un seul mot, promhaies.net. Donc là, vous trouverez un certain nombre d'informations sur les aides, effectivement, à la plantation. Pour ce qui est ensuite de la législation de la protection, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement là des quelques possibilités, mais qui sont aujourd'hui très partielles. Et malheureusement, on voit notamment très récemment dans l'actualité des destructions d'arbres têtards, qui ne sont pas des destructions, mais des exploitations de bois. Malheureusement, l'arbre têtard n'étant pas renouvelé aujourd'hui dans la gestion agricole, on est un peu en train de piller une ressource de bois précieux qui a été constitué par nos anciens et que les générations actuelles ne reconstituent pas pour les générations futures.
Peut-être que vous expliquez ce qu'est un arbre têtard.
Un arbre têtard, c'est un arbre qui a été coupé à une certaine hauteur pour récolter les bûches, et donc il est coupé régulièrement, tous les 10 ou 20 ans. On vient récolter les branches sur une tête qui se forme suite à la cicatrisation, donc ça fait un arbre qui ressemble un peu, voilà, une forme un peu humaine, un tronc avec une boule et une tête au-dessus sur lesquelles va pousser des branches qu'on récolte régulièrement.
Quelques mots encore sur le choix du type d'espèce.
À l'intérieur des haies, nous, on va privilégier essentiellement les espèces locales, champêtres. C'est-à-dire qu'on a même un programme un peu particulier.
Ce qui veut dire dans la région ?
Dans la région, ça va être principalement le chêne, le charme, l'érable champêtre, le noisetier pour les arbres, le merisier également. Et puis après, des arbustes un peu plus petits, on essaie de mettre pas mal d'aubépines qui ont un intérêt important, et des buissons, des prunelliers, des cornouillers sanguins, des fusains, voilà.
Donc on associe des arbustes assez hauts et des arbustes petits.
Voilà, il faut que la haie, pour qu'elle ait tout son intérêt, soit dense. Il y a des arbres, des arbustes qui peuvent être coupés pour le bois de chauffage, puis une strate de buissons qui va accueillir les animaux, qui va produire des baies, faire une densité pour l'effet brise-vent ou abriter le gibier.
Bien, nous passons maintenant à l'agroforesterie et je propose que Gilles Courreau, fort de son expérience, nous explique quel est l'intérêt de l'agroforesterie et comment il est arrivé à constituer donc des parcelles agroforestières.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les parcelles n'ayant pas une forme géométrique régulière, nous avons opté pour l'agroforesterie. Et comme j'arrivais à l'âge de la retraite, il y avait une visée patrimoniale de l'installation de ces arbres. C'était presque philosophique, en ce sens que un arbre, ça met 60 ans à pousser minimum, un noyer, là, je parle des noyers principalement. Si c'est des feuillus, des fruitiers forestiers comme le poirier, le pommier, la lisier, le cormier, il faut compter 120, 150 ans, je pense, pas moins. Donc, vous n'en verrez pas le bout. Peut-être, avec un peu de chance, vos descendants directs pourront les exploiter, en exploiter une partie à leur retraite, et leurs enfants à leur tour une autre partie. Donc il faut rompre avec le raisonnement de la rentabilité annuelle, immédiate, etc., et raisonner en fonction des générations futures.
Sauf pour les noyers, où vous avez des noix assez
rapides. Non, il s'agit de noyers bois. Donc les noix, effectivement, il y a des noix, surtout s'agissant d'hybrides, la plupart du temps, il y a peu de noix. Et de toute façon, les noix, si vous voulez les ramasser, libre à vous, mais il faut courir d'un arbre à l'autre. Ce n'est nullement un verger.
Ça n'est pas rentable.
Je pense que ça n'est pas rentable. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des noix de façon comme ça, extensive. Quand on fait de la noix fruit, on se consacre entièrement et il faut un sol particulièrement bien aménagé pour utiliser des machines pour ramasser. C'est pas du tout notre chose.
Alors, je voudrais apporter un peu une nuance, parce que là, c'est vrai que les durées d'exploitabilité des arbres qui ont été données peuvent un peu décourager peut-être certaines personnes. Alors moi, je suis aussi propriétaire forestier, j'ai des boisements de terres agricoles. Et donc, on a sur ces terrains-là des merisiers qui ont a priori 30, 20 ans aujourd'hui. Et vu la croissance et le diamètre, qu'on va pouvoir exploiter avant 40 ans, a priori. Et on sait qu'en agroforesterie, on a des arbres qui peuvent pousser plus vite. Et donc, des gens de l'INRA qui travaillent sur les arbres forestiers, notamment sur le merisier, estiment qu'on va pouvoir exploiter des arbres à 25, voire 30 ans sur certaines variétés très sélectionnées, effectivement, d'arbres. Oui. Ce que j'avais du mal à croire, mais qui me semble finalement, vu mes observations, possible aujourd'hui.
Oui, moi je suis d'accord avec cette observation.
Patrick Bouchny,
c'est ce que je voulais dire. Les premières études qui ont été menées au tout début de l'agroforesterie des années 2000 en France, par l'INRA de Montpellier en particulier, qui est un peu pionnier en la matière, on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une très bonne croissance dans l'association que j'évoquais entre les cultures qui sont fertilisées, conduites, enfin entretenues dans les parcelles agricoles, et les arbres qui sont effectivement associés, mais de façon à être aussi en faible densité, donc avec de l'espace pour se développer. Ces arbres profitent plus facilement, je dirais, du milieu, des éléments minéraux, d'une certaine quantité d'eau également, pour avoir une croissance plus rapide qu'en système forestier pur.
Est-ce que vous pourriez décrire une parcelle agroforestière ?
Oui, auparavant, je reviens sur ce qui vient d'être dit. Je suis absolument d'accord. L'agroforesterie entraîne des croissances très supérieures au boisement en forêt. Et je dis qu'actuellement, il faut oublier un petit peu ce raisonnement de la croissance, parce que les marchands de bois vous diront qu'un bon bois précieux doit avoir de la fibre serrée, donc doit pousser lentement. Et je ne pense pas... J'ai un problème, moi, personnellement, avec les hybrides, qui sont des vrais... des Formule 1, qui vous dépassent par la vitesse à laquelle ils poussent. Et donc, toute possibilité de les ralentir me semble une bonne chose. Nous, les arbres poussent trop vite. Et en plein champ, hein, donc avec les effets de la fertilisation et du travail du sol. Donc, il faut modérer ce propos de la performance. Je suis d'accord avec la vitesse de croissance.
Patrick Bouchny.
Alors, je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que je ne suis pas forestier. Simplement, une information que j'avais aussi récupérée à travers les études qui sont menées, y compris avec des transformateurs, c'est qu'on a aussi, en tout cas pour une certaine demande de bois, du bois de déroulage, des bois de plaquage, une facilité à utiliser aussi ces bois à croissance dite rapide, tout en gardant quand même une certaine qualité. Ça, apparemment, c'est... bon, il faudrait rentrer dans le milieu de la filière pour avoir des informations plus précises, mais ça demande quand même à être étudié quand même cette demande spécifique avec des essences dites précieuses.
Oui. Lorsqu'on fait le choix d'un bois précieux, c'est qu'on... Précieux, par définition, c'est pour qu'il se vende cher. Hein. Si on fait un arbre précoce, rapide, à ce moment-là, faites du peuplier. Mais ce n'est pas un arbre précieux, c'est un arbre que vous vendez le dixième, voire le cinquantième d'un bois précieux. Tout à l'heure, vous posiez la question, qu'est-ce que c'est qu'une parcelle agroforestière ?
Vous pouvez décrire, oui, effectivement, pour nos
auditeurs. En gros, une parcelle, donc, nous avons opté pour un intervalle entre les lignes de 25 mètres.
25 mètres entre les lignes d'arbres.
C'est ça. Et ce qui permet
entre chaque arbre ?
C'est ce qui permet de travailler avec des rampes de traitement de 24 mètres, et à condition que l'exploitant soit vigilant sur les rampes pour ne pas buter, toucher les arbres. La distance entre les arbres, nous avons opté pour 7 mètres sur le conseil de l'INRA de Montpellier. Et à l'expérience, je pense que c'est une erreur. Si c'était à refaire, je prendrais 8 mètres pour une simple raison, c'est que maintenant, les agriculteurs ont des largeurs de travail de 6 mètres et que ça permettrait de faire du travail croisé. À certaines époques, on croise les façons culturales. Et en particulier, lorsqu'on revient sur des techniques simplifiées, ce qu'on appelle les TCS, techniques culturelles simplifiées, à 24 mètres, on ne peut pas croiser. Donc, c'est une source de... Néanmoins, quand on fait de l'agroforesterie avec du noyer notamment, qui est un arbre qui pousse très vite, le labour reste une technique indispensable. Et si vous ne labourez plus, il faut faire ce qu'on appelle le cernage des racines, c'est-à-dire couper les racines près de l'arbre, faute de quoi les racines vont coloniser les horizons superficiels et venir concurrencer les céréales. Alors que l'intérêt de l'agroforesterie est de ne pas pénaliser le rendement de céréales.
On dit
céréales
même que...
Ou colza.
On dit qu'au contraire, ce n'est pas une pénalisation, mais il y a un gain dans les cultures céréalières.
Oui, pas tout de suite, je pense.
Pas tout de suite.
Mais à 6 ans, les feuilles à l'automne représentent quand même une restitution importante.
Donc il y a fertilisation des sols par les feuilles.
Oui, pas immédiate, c'est vrai, oui.
Patrick Bouchny, peut-être.
Mais simplement par rapport à cette définition des parcelles, et je vais revenir un petit peu aussi sur cet historique. C'est vrai que les premières études ont été faites, comme on l'a dit, dans les années 2000, autour des résultats et des informations économiques et agronomiques. Mais depuis 2006, dans la région en particulier, il y a donc, suite à un programme national, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de parcelles expérimentales, 14 pour la région Poitou-Charentes.
Avec l'aide de la région ?
Alors, avec l'aide de la région, effectivement, qui s'est impliquée dans ce programme, je vais dire, de parcelles expérimentales. Ces parcelles expérimentales ont servi ensuite à un deuxième programme depuis 2008 à 2011, qui a été piloté par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en particulier, mais avec une quinzaine de partenaires sur les intérêts agro-environnementaux de ces arbres et de ces associations. Donc je vais peut-être détailler un tout petit peu.
Vous pouvez donner simplement, des conclusions.
Simplement par rapport à la démarche aussi qui a été entreprise depuis 2000 jusqu'à 2010, il y a eu également dans la mesure qui s'est mise en place progressivement, mesure 222 qui est une mesure d'aide au développement de l'agroforesterie, mesure nationale qui a été reprise également dans les régions et en particulier par la région Poitou-Charentes, donc le conseil régional Poitou-Charentes. Cette mesure permet depuis fin 2009 de développer enfin l'agroforesterie, on va dire entre guillemets à grande échelle. Donc depuis les 14 parcelles expérimentales qui nous servent donc effectivement de lieu d'observation, de mesure, j'y reviendrai rapidement dans les conclusions, on a maintenant depuis 2009 un programme qui est lié à une mesure qui s'appelle mesure 222 du programme régional de développement agricole et qui permet à la région d'avoir investi, d'avoir budgété 100 000 euros pour le développement des projets agroforestiers. Et actuellement,
chaque projet agroforestier,
cette nouvelle mesure a permis déjà de développer 17 projets dans la région Poitou-Charentes, sans compter quelques projets qui n'ont pas pu être financés, les porteurs de projets se sont débrouillés, je dirais, par eux-mêmes, sachant que cette mesure 222 est accompagnée également d'un certain nombre de conditions, d'obligations, de surface et tout ça, qui limitent aussi certains bénéficiaires. Mais globalement, cette mesure a vraiment démarré depuis fin 2009.
Est-ce que la région est bien placée ? En France ?
La région Poitou-Charentes, dans l'ensemble des projets, il y a un certain nombre de régions qui sont parties sur cette mesure 222. La région Poitou-Charentes, je dirais, sans avoir les chiffres officiels, se situe certainement pas trop mal. Certaines régions ne l'ont pas prise, donc effectivement, ça fait zéro. Enfin, zéro en tout cas. Et parmi les régions, les conseils régionaux qui ont adopté cette mesure 222, on doit arriver maintenant 17 projets sur cette mesure. Ça fait un peu plus de 150 hectares. On doit être tout à fait raisonnable en termes d'éveil de cette...
Dans la moyenne et même un peu au-dessus des régions.
On est certainement assez bien placé au niveau des régions françaises qui ont acté cette mesure.
Parlons maintenant des conclusions des parcelles, des parcelles témoins.
Donc les parcelles qui ont été suivies sur un certain nombre de domaines, je voudrais simplement résumer, il y a trois grands domaines qui ont été pris en compte au niveau environnement. Ou plutôt effet attendu des arbres sur les cultures et vice-versa, des cultures sur les arbres. On a évoqué tout à l'heure l'effet croissance des arbres par rapport à la situation en parcelle agricole. Par rapport aux cultures et par rapport à l'environnement, il y a trois domaines qui ont été étudiés. Le domaine biodiversité, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des suivis sur des auxiliaires de culture ou des pollinisateurs. Il se trouve que sur ces pollinisateurs, il y a... à la fois, et sur les auxiliaires de culture, les suivis ont montré qu'il y avait à peu près, dans 7 parcelles sur 10, une augmentation de l'ordre de 20 à 30% des auxiliaires, soit en abondance, c'est-à-dire en nombre d'individus, soit en espèces qu'on a trouvées. Alors quand je parle d'auxiliaires, nous on a étudié deux familles, on va dire. D'une part les carabes, donc c'est des coléoptères qui consomment des limaces, qui consomment un certain nombre d'insectes au sol.
Donc qui détruisent des ravageurs.
Et également les syrphes, qui sont à la fois aussi des pollinisateurs, mais dont les larves sont aphidiphages. On évoquait tout à l'heure, c'est en particulier des insectes comme les coccinelles qui consomment les pucerons sur les cultures. Donc cette partie biodiversité a été relativement intéressante. Sur la partie eau, il faut quand même signaler, et c'est important pour la région Poitou-Charentes, des études ont montré... à partir d'exemples de suivi de parcelles et de modélisation, qu'on avait une réduction qu'on pouvait obtenir avec des plantations agroforestières, donc espacées, avoir une réduction de 3/4 de la pollution par les nitrates au niveau des nappes. Donc une réduction, une consommation par les arbres, donc une réduction de la perte de nitrates et de la pollution en nitrates vers les nappes. C'est très intéressant dans des régions où on sait qu'on est, par exemple, Poitou-Charentes, particulièrement concerné par la situation au niveau des nappes. Donc ça peut être des systèmes
régulièrement réprimandés par la communauté européenne.
Alors ça peut être des systèmes agroforestiers intéressants parce qu'ils sont complémentaires ou ils peuvent se substituer à des plantations forestières, tout en maintenant quand même de la production agricole sur le territoire.
Est-ce qu'il y a un effet sur la sécheresse ? Quand il y a sécheresse, est-ce que
l'agroforesterie est favorable ? Il commence à y avoir des études intéressantes qui montrent qu'au niveau de l'effet ombrage, Les arbres, dans certaines conditions, et ça a été modélisé, les arbres peuvent arriver à avoir un effet pour limiter les coups de chaleur. Et on a des effets éventuellement positifs sur des cultures céréalières, avec une diminution de l'évaporation, comme on l'a évoqué pour les haies. On a un effet également tempéré au niveau d'un effet un peu savane ombragée, quoi.
Samuel Fichet.
Oui, on constate effectivement qu'on a de plus en plus des printemps avec des coups de chaleur importants qui peuvent être très néfastes à la production céréalière. Et on peut estimer effectivement que le couvert des arbres en agroforesterie va limiter un petit peu l'impact de ces coups de chaleur et augmenter la production de céréales, éventuellement dans des conditions climatiques extrêmes.
Mais l'effet reste à quantifier peut-être.
Alors l'effet reste encore à quantifier, le modèle est relativement favorable. Par contre, il y a encore un autre élément que j'ai oublié, c'était le troisième sur la partie sol. On s'est aperçu également que, vu la répartition des arbres également dans les parcelles agricoles, on a une augmentation de la fertilité du sol, tant en teneur en matière organique, on l'a évoqué, c'est-à-dire l'effet racinaire, l'effet feuille, enrichit le taux de matière organique des sols. Et on s'est aperçu que par rapport à des comparaisons en parcelles agricoles, comparer une parcelle agroforestière, donc le même contexte, on avait un gain de 50% du taux de matière organique dans les sols agroforestiers. Et entre autres aussi, un effet bénéfique de certaines racines et de mycorhizes, enfin des champignons qui accompagnent, on appelle ça des mycorhizes, des champignons qui accompagnent le système racinaire et qui améliorent en particulier la possibilité par les plantes de fixer, d'absorber le phosphore. Donc il y a un effet bénéfique pour les plantes de ces arbres grâce à une meilleure alimentation au phosphore.
Malheureusement, il est temps de conclure. Alors, je propose que vous commenciez vos conclusions, mais très brièvement. Donc, Patrick Bouchny, puis ensuite Gilles Courreau et enfin Samuel Fichet.
Eh bien, je dirais que pour continuer les perspectives qu'on a dans le développement de l'agroforesterie dans la région, que ce soit avec l'aide du conseil régional qui se poursuit encore cette année, ou que ce soit avec l'appui des différentes structures qui œuvrent pour l'agroforesterie, donc que ce soit Promet, le centre régional de propriété forestière aussi qui nous accompagne, nous chambres d'agriculture, nous avons encore beaucoup d'études à faire parce que le projet lui-même est encore très très... Enfin, on peut dire de façon très ambitieuse qu'il y a encore de belles perspectives pour le développement de l'agroforesterie qui s'inscrit dans des nouveaux modèles de systèmes de production agricole qu'on appelle, certains l'appellent agriculture écologiquement intensive. Enfin, en tout cas, on a des perspectives pour, à la fois grâce aux arbres, réduire les coûts de production et peut-être optimiser la production agricole.
Gilles Courreau.
Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Je pense qu'un des handicaps quand même de l'agroforesterie, c'est que vous définissez une fois pour toutes la largeur de travail et que la mécanisation, malheureusement, est un facteur dominant dans le choix des agriculteurs. Il évolue vers le gigantisme, oui. Et donc, M. Jollet, dont nous parlions, a été pionnier. Il avait mis ses arbres à 12 mètres. Nous les avons mis à 24 mètres. Aujourd'hui, on parle de 36 mètres, voire plus de 40 mètres en Beauce. Donc, l'agriculteur hésitera toujours à se fixer dans l'espace.
Et donc, oui,
Samuel Fichet,
pour conclure. Pour conclure rapidement, donc, nous on accompagne effectivement également des projets agroforestiers avec des agriculteurs, donc j'invite les personnes qui sont intéressées à regarder effectivement notre site internet parce qu'on a des plantations publiques de programmées, donc, dont une à Châtellerault fin janvier, début février, et puis une autre dans le nord de Sèvres également sur cette période-là. On plantera 4 projets cet hiver pour une vingtaine d'hectares et on espère réaliser une dizaine de projets l'hiver prochain pour peut-être une centaine d'hectares.
Donc vous pensez que l'agroforesterie est appelée à un bel avenir ?
Je pense, oui, effectivement, que c'est l'agriculture de demain et avec à la fois l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, l'agroforesterie est une agriculture très intéressante. Oui.
Merci à tous les trois. À bientôt, chers amis auditeurs.